Bienvenue sur Alimente ton sport, un podcast qui se veut un lieu d'échange et de partage sur la nutrition sportive. Je suis Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. J'ai comme mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport en améliorant leurs connaissances et en développant leur autonomie en nutrition. Avec Alimente ton sport, je souhaite donc te partager mes connaissances et mon expérience en nutrition sportive. Je souhaite aussi échanger avec mes invités sur différents sujets qui touchent de près ou de loin la nutrition, parce que selon moi, on peut alimenter notre sport avec, oui, bien sûr, la nutrition, l'alimentation, mais aussi avec d'autres aspects non négligeables. Merci d'être là, merci de me permettre de réaliser cette mission-là et bonne écoute! Bonne nouvelle, je t'annonce officiellement que mon plus gros lancement de l'année a lieu présentement. Je suis en lancement de mon bundle Alimente tes performances, Alimente ton trail. Le bundle, c'est quoi? En fait, c'est mes deux programmes regroupés dans le même bundle. Donc, en te procurant le bundle, tu as accès vraiment à ces deux programmes-là. Alimente tes performances, c'est un programme qui te permet d'aller travailler tout ce qui touche l'alimentation au quotidien, tes repas, tes collations, l'adaptation de ton alimentation en fonction de tes différents entraînements dans la semaine. Également, adapter ton alimentation en fonction de ton volume d'entraînement dans l'année. Ensuite de ça, Alimente ton trail, c'est un programme qui va te permettre d'aller travailler une stratégie pour une course spécifique ou des courses spécifiques si jamais tu as plusieurs événements de prévu cette année. Donc, on va vraiment aller développer une stratégie là, qui est personnalisée. Le bundle comprend de l'accompagnement individuel, des modules de formation et des rencontres de groupe pour te permettre d'échanger avec des coureurs qui partagent les mêmes défis que toi, la même réalité que toi. J'ai déjà la moitié de mes places de réservées dans le bundle depuis le début du lancement. Au total, là, j'ai 15 places de disponibles. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais laisser le lien dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Tu pourras aller consulter le lien. Je fonctionne par appel pour réserver ta place dans le programme, tout simplement parce que je veux, un, apprendre à te connaître, deux, m'assurer que c'est vraiment le meilleur service pour t'aider. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, réserve la L'appel ne t'engage à rien, mais ça nous permet d'échanger ensemble et de voir si c'est vraiment le meilleur accompagnement pour toi. Sur ce, je te laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast Alimente ton sport. Aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode Raconte-moi ton anecdote de nutrition et je suis vraiment contente parce que ça fait longtemps que je veux recevoir l'invité que j'ai avec moi aujourd'hui. C'est une personne qui fait des belles aventures super inspirantes et je pense qu'on va avoir une belle discussion avec tout ce qui touche la nutrition autour de ces aventures-là. Je suis avec Charlotte Levasseur-Paquin. Salut Charlotte et bienvenue sur Alimente ton sport.
Allô Audrey, merci de me recevoir.
Merci à toi d'être là. Charlotte, tu es quand même très bien connue dans le monde de la course en sentier pour tes aventures, comme je le disais d'entrée de jeu. Entre autres, ton FKT sur le sentier international des Appalaches que tu as fait, je pense, à deux reprises, si je ne me trompe pas.
Exactement, je me suis auto-battue.
Oui, c'est ça, tu t'es auto-battue, okay, c'est ce que je pensais. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, les gens qui apprennent à te découvrir avec mon podcast, peux-tu nous parler de ton parcours, de peut-être ton parcours en course à pied, des grandes aventures que tu as fait aussi dans le passé?
Parfait. Moi, dans le fond, à la base, je suis une coureuse de route. Là, j'ai découvert la course aux routes début vingtaine lors de l'université. Je voulais me garder un peu en forme, puis j'avais besoin de quelque chose d'un peu régulier. J'ai eu un épisode où est-ce que je me blessais comme tout bon coureur vraiment souvent, ce qui m'a apporté graduellement vers la course en santé, parce que la surface étant plus molle et l'intensité étant un peu moindre, c'est plus facile de faire du volume sans se blesser. Finalement, ça a été une méga piqûre, une méga passion. J'ai commencé avec des distances un peu plus courtes, des 30 kilos, des 40 kilos. Puis au fil des ans, j'ai multiplié un peu plus les courses officielles, courses de plus en plus longues. Puis ma nouvelle découverte des dernières années, c'est vraiment le fastpacking. Donc, ce qui mélange la rando et la course, j'ai quand même un background de plein air, de rando. Ça me permet de vivre un peu les deux, de faire des longues traversées en autonomie. C'est ce que je préfère. Donc, le côté un peu aventure, je mixe ça avec le côté course où est-ce que je vais aller chercher des bons kilométrages par journée sur certaines traversées.
Je suis curieuse de savoir, tu sais, quand tu as commencé à courir en sentier, est-ce que c'était clair pour toi déjà que tu voulais te rendre vers ces aventures-là ou ça s'est comme passé toute seule progressivement?
Ça s'est passé graduellement. Je crois que dans mes débuts, je réalisais pas à quel point c'était vaste la course. Je crois une des caractéristiques du trail, c'est vraiment qu'on réalise que l'humain est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense, qu'il y a d'autres choses après le marathon, par exemple. Puis donc, j'ai appris graduellement que les longues distances, ça se pouvait. Puis ça s'est comme mixé un peu naturellement. Quand je faisais des randonnées, je me disais, ah, je serais tellement bien si je pouvais faire ce même parcours, mais avec un sac beaucoup moins lourd. Donc, pas ma petite main sur le dos, mais quelque chose de plus minimaliste. Donc, avec le temps, là, puis les expériences, j'ai fini par bâtir un peu ce genre de spécialité-là. C'est sûr qu'à la base, ce que j'aime, c'est vraiment courir. Donc, des fois, le fast-packing, ça me demande un peu de patience parce qu'il y a des moments où on peut moins courir, ne serait-ce qu'à cause de l'équipement ou du terrain. Mais ouais, c'est vraiment naturellement, graduellement que ça s'est présenté. L'an passé, je me suis mis à faire un peu plus d'essais avec les courses continues dans les 100 kilos. Donc, ça a été un peu mon exploration, le 100 du Gaspésien 100, puis le 125 de Harricana. Donc là, je me tourne un peu dans ces distances-là un peu plus longues, puis mon but, c'est éventuellement de mixer un peu des deux, d'aller encore dans du fast-packing, mais maintenant que j'ai comme unlock, j'ai comme débloqué des capacités au niveau des plus longues distances, de mixer le tout ensemble.
OK. Puis tu sais, j'ai parlé rapidement tantôt de ton FKT là, sur le sentier international, ben, tes deux FKT. Mais je suis certaine qu'il y a plein de monde qui nous écoute et qui n'ont aucune idée de c'est quoi je parle quand je parle de FKT et de l'aventure aussi du sentier des Appalaches. T'sais, je pense que c'est comme un 650 km, je sais pas trop
Exact.
le dénivelé, mais je vais te laisser justement nous expliquer un peu c'est quoi un FKT puis c'est quoi cette aventure-là que tu as vécue deux fois.
Parfait. Les FKT, dans le fond, c'est un sigle qui signifie Fastest Known Time, donc le temps le plus rapide connu. C'est une plateforme web qui a plusieurs années déjà, là, depuis que c'est plus facile d'enregistrer les données par GPS avec les spots, avec les montres, qui regroupe, dans le fond, les records sur certains sentiers, parcours. Ça peut être de plus ou moins court à très, très long. Par exemple, il y a l'Appalachian Trail, le 3 500 km aux États-Unis. Puis, tu vas avoir dans ces records-là, dans le fond, plusieurs catégories. Donc, tu peux avoir l'autonomie, c'est-à-dire que tu pars au début avec tout ton matériel, tu termines avec tout le même matériel. Tu peux avoir la catégorie supportée, donc avec une équipe de course qui te suit. Puis, tu peux avoir aussi la catégorie self-supported, donc c'est comme une autonomie planifiée. Tu as le droit à des ravitaillements, mais que tu t'es déjà planifié. Puis l'important, c'est un peu la philosophie du true hiking, donc les grandes randonnées, c'est que tu dois accéder aux mêmes choses que tout le monde. Donc, tu ne pourrais pas, par exemple, dormir chez un ami ou avoir des amis qui te donnent la nourriture, mais tu peux louer un camping, tu peux utiliser ta tente, tu peux recevoir, par exemple, je sais pas, si quelqu'un t'offre une pomme, tu peux la prendre ou peu importe. Donc, tu peux avoir un sport minimal, mais qui ne doit pas être organisé par autre que toi-même. Tu peux pas avoir une aide extérieure planifiée. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait sur le sentier international des Appalaches, au Québec, on a les Appalaches qui passent dans la Gaspésie, qui continuent vers le Nouveau-Brunswick, puis le Maine et les États-Unis. Puis, on a une portion qu'on appelle justement le SIA, SIA ou le GRA1. Qui parcourt toute la Gaspésie, mais par l'arrière-pays, donc par la vallée de la Matapédia, la réserve faunique de Matane, le parc de la Gaspésie, le nord de la Gaspésie, dans les montagnes, un peu plus dans les terres, puis qui finit à Foria.
Okay, parfait. Donc ça, c'est un 650 km, comme je disais. Combien qu'il y a
Exactement.
de mètres de dénivelé positif sur cette
Là,
distance-là?
toutes les sources ne s'entendent pas parce
OK!
que ça varie un peu. Oui, exactement. C'est autour de 30 000 mètres de dénivelé positif. Ça tourne, selon les GPS, ça tourne entre 25 000 puis 30 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est un bon morceau. C'est du terrain très difficile au niveau technique, là. C'est que c'est pas seulement, c'est par exemple du territoire alpin où est-ce que tu vas monter et descendre sans cesse. C'est aussi le défi. Il y a comment on dit en français? Une swamp. Des marais à traverser. Il y a des endroits très peu défrichés, des forêts, beaucoup de boues, beaucoup de racines, comme on connaît les Appalaches. Puis dans le fond, moi, j'ai fait une première traversée en 2021, il n'y avait pas encore de record femme à ce moment-là. Donc, j'ai établi la première marque en 13 jours et 4 heures, si je me souviens bien. Puis ça m'a vraiment forgé beaucoup au niveau expérience, longue distance répétée. C'était quand même mes premières expériences d'autant de distances répétées. On parlait de 40-50 kilos par jour. Donc, en terminant, après avoir récupéré un peu, je savais que je pouvais faire mieux. Donc, l'année suivante, en 2022, j'ai retenté une nouvelle fois ce sentier-là. Puis, j'ai battu un peu la marque femme, je crois, de toute catégorie. Je crois que la femme supportée, c'était Anne Bouchard aussi. Donc, j'ai battu les deux, mon propre temps puis son temps. Donc, j'ai repris la couronne du sentier international des Appalaches en 10 jours et 9 heures, si je me souviens.
Curieuse de savoir, tu sais, tes deux expériences. Tu sais, c'est sûr que la deuxième fois que tu l'as fait, tu avais l'expérience de la première, tu sais, derrière la cravate. Est-ce que tu l'as attaqué différemment, le
Ah
sentier,
oui,
la deuxième fois?
assurément,
Oui.
vraiment. Puis je crois sur tous les plans. Premièrement, dans l'entraînement, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de montagnes. J'ai eu la chance d'habiter quelques mois en 2022 en Gaspésie. Donc, je me suis vraiment entraînée dans les montagnes. C'était plus spécifique. Au niveau kilométrage aussi, ça m'a donné beaucoup d'expérience dans les parcs, là. C'est sûr que l'entraînement ponctuel ou cyclique a une importance. Par exemple, faire un marathon quand on n'a pas de volume, c'est plus hasardeux niveau blessure. Mais je crois qu'il y a un phénomène aussi au niveau de l'entraînement général accumulé au cours de ta vie, de tes années. Le cerveau quand même se souvient de certains efforts, comment ça se déroule. Notre corps développe quand même une résistance là, quand on continue de quantifier le stress mécanique puis en s'entraînant. Donc, juste ce genre d'expérience totale physique, là, je crois que ça a aidé aussi. J'avais beaucoup plus de consécutifs aussi pour me préparer. Puis niveau nutrition, évidemment, j'ai une stratégie un peu différente. Là, j'avais plus d'expérience, je voyais plus un peu qu'est-ce qui fonctionne dans de l'effort répété. On sait que dans les ultras, souvent, la variété, c'est important dans un premier événement. Mais là, imagine cet événement-là reproduit sur des jours et des jours. Donc, cet aspect-là, je l'ai travaillé aussi pour voir qu'est-ce que j'étais capable de manger encore après plusieurs jours, qu'est-ce qui était plus facile d'accès. Parce que le défi aussi de l'accessibilité de la nourriture, parfois, ça doit être de la nourriture déshydratée. Parfois, j'ai accès à un dépanneur, donc ça peut se faire à ces endroits-là, mais c'est aussi la macro-planification de la nourriture qui a changé à ce moment-là.
Parfait. Ben, je suis contente que tu parles de nutrition parce qu'on est justement là aujourd'hui pour parler, tu sais, oui, de tes aventures, mais vraiment au niveau point de vue nutritionnel. Si on décortique peut-être tes deux courses, tes deux expériences, tu sais, sur ce sentier-là, ta première année, tu l'as attaqué comment au niveau nutrition? Est-ce que tu avais déjà, tu sais, vraiment une bonne stratégie d'établi avec l'expérience de tes autres courses avant? Comment tu as planifié ça?
Je crois que c'était plus l'expérience de rando qui est entrée en ligne de compte. J'avais fait plusieurs repas déshydratés. J'avais fait un certain calcul au niveau calorique là, pour être sûr d'avoir un bon 3 à 4 000 calories disponibles là, dans mes ravitaux. Donc, c'était comme un peu des repas que je déshydratais, mais qui étaient dans une forme que je pouvais manger non réhydratée parce que c'était des grammes, tout ce qui est brûleur et bonbonne, donc je voulais pas aller ajouter ces aspects-là. Donc, c'est un peu ça, repas déshydraté, snack, bar tendre, fruits déshydratés pour essayer d'aller chercher un peu tout ce qui est... On n'a pas assez beaucoup à des fruits frais en rando, donc aller chercher un peu de fibres, de sucre, un peu, pas seulement lent. Donc, c'est un peu ça, ma stratégie. Je crois que de l'avoir fait une première fois, ça m'a permis aussi de voir les moments où je pouvais avoir accès plus à de la nourriture fraîche. Je pense que ça, c'est quand même important, là. Le défi de la première fois, c'était vraiment un moment donné, j'étais vraiment tannée de manger genre du tofu jerky ou c'est même sur mes mâchoires, c'était de la nourriture déshydratée. L'espèce de monotonie d'avoir les mêmes repas, ça a finalement eu un peu d'impact sur mon ingestion. À la fin, j'en mangeais un peu moins aussi, même si je brûlais autant, sinon plus de calories. Donc, ouais, à ma deuxième traversée, j'ai vraiment un peu plus bonifié ce que j'allais chercher dans justement les dépanneurs, les épiceries de village, ce que je pouvais aller chercher un peu plus frais là, à ce moment-là.
Fait que tu l'avais considéré à la deuxième reprise, tu l'avais considéré dans ta stratégie, là, justement, les endroits
Exactement.
accessibles.
Sachant, c'est surtout que la première traversée, tu ne sais pas exactement à quel point il y a des choses qui sont accessibles ou pas. Puis
Ouais.
il circule dans quelques villages, ensuite il retourne dans les terres. Donc, il y a des moments où tu es plusieurs dizaines de kilomètres sans accès à la civilisation, mais parfois, il y a des moments plus clés où je peux aller chercher justement faire un stop là, sur la route pour la nourriture plus fraîche.
Curieuse, est-ce que premièrement l'accessibilité à la nourriture plus fraîche, t'as-tu quand même une grande disponibilité d'aliments ou c'est quand même limité? Tu arrives là, puis il y a.
Très bonne question. Ben, c'est des, souvent, c'est des épiceries de village, de petits
OK.
villages, plus tournant la Gaspésie, par exemple,
Ouais.
où tu vas avoir vraiment des trucs de base. C'est aussi un enjeu que j'avais exploré quand, l'été passé, en 2023, j'ai fait la East Coast Trail à Terre-Neuve. Puis là, j'avais un peu moins de planification, moins de trucs préparés d'avance parce que je voulais, de un, c'était moins long, c'était un 210 kilos. Puis je voulais aussi éviter là, de poster de la nourriture à des bureaux de poste qui seraient peut-être fermés à ces moments-là, au moment de passage. Donc, c'est vraiment des épiceries super rudimentaires, là, un peu comme ce que j'ai trouvé en Gaspésie. Donc, là, c'était un peu trouver, développer la connaissance de qu'est-ce qui va m'emmener des calories, des protéines, des glucides, pas seulement rapides, un peu voir quel aliment peut me soutenir juste pour ma journée ou mon 2 jours à venir, là. Donc, ouais, ça, c'était l'autre petit défi, là. C'est pas comme la plus grande épicerie avec
Ah ouais.
la disponibilité, la variété. Puis aussi, le poids, c'est à considérer, là.
Ah ouais.
Plus ça amène des aliments frais ou des fruits, par exemple, plus c'est lourd dans le sac à dos, donc moins de courses ben, possibles à ces moments-là. On se rend vraiment compte en fast packing que chaque gramme a vraiment une influence. C'est pas exagéré là, de calculer les grammes, de couper sa brosse à dents, d'aller chercher tous les trucs pour
Oui.
éviter le plus de poids possible. Donc, la nourriture, malheureusement, fait aussi un peu partie de cette stratégie-là.
Ah, définitivement. Tu sais, tu disais qu'un enjeu que tu as rencontré, c'est la saturation des papilles gustatives qu'on appelle là, quand on est tanné de manger la même chose. Est-ce que pendant la traversée, il y a des moments où tu disais, ah, il me semble que je mangerais ça. Tu sais, est-ce que tu as eu des envies alimentaires d'aliments ou de repas
Oui,
pendant?
tellement. Je crois que chaque fois que j'ai des aventures comme ça, je me fais des menus. Genre, je rêve à la nourriture. J'aime vraiment cuisiner. Donc, juste l'acte de cuisiner, ça me manque, là, de manger des vieux hummus aux betteraves, là, à un moment donné, ça sature, là. Donc, oui, vraiment. Ouais, beaucoup d'envie. Des fois, il y a un aspect comme divertissant à ça. Je suis tellement longtemps sur mes jambes dans la journée que, il y a un aspect vraiment positif de rêver un peu à ce que je voudrais manger. Puis, de savoir que je vais le réaliser là, dans X jours ou X semaines. Mais oui, certainement, des fois, des cravings de manger de la salade, c'est comme, je pense, le plus grand craving que j'ai, un genre de truc, c'est végétal frais, là, ça me manque beaucoup. Ouais.
OK, fait que principalement les végétaux.
Ouais, ça curieusement, ça me manque beaucoup. C'est sûr que il y a aussi des envies de sucre ou genre des trucs qu'on sait qui sont caloriques, genre les viennoiseries, des trucs comme ça. Ou les choses beaucoup associées au confort, genre un café. Et c'est rare que je m'en emmène dans mes aventures parce que tu sais, il faudrait comme du café instant, puis j'ai pas rien pour bouillir de l'eau non plus. Mais le côté réconfort de café croissant, cet aspect plus émotionnel-là me manque aussi dans ces moments-là.
Oui, puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nommes parce que tu sais, j'en parle souvent, mais l'alimentation, en fait, c'est que pendant une aventure comme ça, l'objectif de s'alimenter répond à un besoin. C'est le besoin primaire de s'alimenter, nourrir notre corps. Mais l'alimentation, c'est tellement plus complet que juste nourrir notre corps. À la base, on mange, oui, pour répondre à ce besoin primaire-là, mais aussi pour plein d'autres raisons, entre autres, tu sais, le réconfort, le plaisir, la satisfaction des papilles gustatives, partager des trucs avec nos proches. Fait que tu sais, dans une aventure comme ça, tu réponds aux besoins primaires, tu sais, mais le reste est pas
Tout
comblé,
à
dans le
fait.
fond.
Ouais, c'est vraiment l'image de aussi comment ces aventures-là se déroulent. C'est même pour les vêtements, tu as un chandail, c'est même pas du confort, c'est juste utilitaire. Pour la nuit, tu as juste ce qui est suffisant pour avoir assez chaud, mais sans extra. J'ai pas de livre avec moi, donc vraiment, c'est représentatif dans tous les aspects de ces aventures-là, dont la nourriture. Puis le fait est que la nourriture, j'ai l'impression que la ligne est mince, cependant, entre être strictement fonctionnel, puis où est-ce que le côté diversité, plaisir, réconfort est quand même nécessaire pour pouvoir continuer à manger.
Ah, vraiment. Puis, tu sais, je pense que l'expérience aussi est super. Tu sais, là, dans le fond, on a parlé un petit peu de ton parcours. Puis, tu sais, je veux m'en aller vers là. Je suis curieuse de savoir. Tu sais, tu me disais, mon évolution, tout ça a été progressif. Tu sais, j'ai commencé dans des plus courtes distances qui m'ont amené tranquillement, pas vite, parce qu'on s'entend, là, c'est pas tout le monde là, qui va parcourir 650 km. À la course comme ça. Fait que, tu sais, je pense que de parler de ta progression aussi au niveau nutrition, est-ce que ton expérience, ta stratégie nutritionnelle a évolué au cours de ces années-là de préparation, dans le fond, avant les aventures?
Oui, tout à fait. Je pense aussi que la connaissance des produits disponibles pour les coureurs-coureuses m'a aidée à bonifier un peu. Je crois qu'à la base, j'aime beaucoup ce qui est fait maison, j'aime cuisiner, Mais il y a vraiment une science quand même derrière les produits là, les purées énergétiques, les drinks électrolytes avec des protéines et tout. Donc, je crois que j'ai bonifié un peu mon alimentation en incluant ce qui fonctionnait avec moi, en testant toujours. Là, on sait à quel point faire des tests maison, c'est important, mais en testant justement c'est quoi les saveurs qui me conviennent encore, quelle poudre protéinée fonctionne encore, savoir que, par exemple, je ne sais pas, les gaufrettes, là, toutes marques confondues, en général, ça fonctionne super bien avec moi. Il y a comme le côté un peu texture qui me convient, puis quand je sais que le produit est bonifié de protéines de plus, comme je suis végé, des fois, c'est aussi un enjeu à vérifier, là, de ne pas seulement manger des glucides, mais aller chercher aussi un apport de lipides, de protéines suffisants. Je crois que de bonifier mon alimentation avec ces produits-là plus industriels, mais on a la chance aussi au Québec d'avoir des produits de qualité qui sont faits par
Tout
des
à fait.
entreprises, donc pas seulement... On est loin des Clif Bar maintenant, là. Je crois qu'on a beaucoup plus d'options, là, dans notre consommation au Québec.
Je trouve ça intéressant ce que tu nommes parce que oui, on a beaucoup plus d'options, mais pour le consommateur, c'est très difficile aussi de s'y retrouver. Puis, c'est juste avant notre enregistrement, j'avais une rencontre avec un client, puis on parlait de ça, tu sais, la disponibilité des suppléments. Puis, tu sais, maintenant, c'est qu'il y a plein de catégories de suppléments aussi qui existent. C'est juste une boisson d'électrolytes versus une boisson d'électrolytes qui contiennent aussi des glucides. Puis là, maintenant, il y a des boissons d'électrolytes qui contiennent des glucides et des protéines, mais c'est pas tous les gens qui vont faire, tout le monde qui vont faire la différence entre ces produits-là. Fait que ça peut devenir quand même assez lourd de se retrouver là-dedans, là. Fait que tu sais, je pense que quand on fait nos tests, la clé, c'est vraiment d'apprendre à connaître les produits qu'on teste, de les décortiquer, puis de comprendre c'est quoi
Tout à
l'objectif
fait.
nutritionnel derrière le produit, là.
J'ai fait aussi beaucoup de lectures, écoute de podcasts pour justement comprendre ça parce que la nutrition, je pense, c'est un des aspects du corps humain, ben, de la science, de la santé qui on entend tellement tout et n'importe quoi qui ne sont pas toujours de sources fiables. C'est un aspect qui est très grappillé là, par justement les influenceurs, les pseudo-scientifiques, tout ce qui peut être la pseudo-science en fait. Donc, j'ai essayé vraiment d'aller chercher des informations plus valides à la source pour comprendre qu'est-ce que c'est la poudre électrolyte, c'est quoi les études, c'est quoi les évidences scientifiques sur quand est-ce qu'on en a besoin et à partir de quelle durée c'est pertinent. Même chose pour les suppléments de protéines, quels sont mieux absorbés, pourquoi et tout. Mais c'est ça demande une recherche en effet parce que sinon c'est du marketing aussi. Il y a l'aspect que tous les produits veulent se faire vendre, donc tous ont l'air d'un produit miracle. Donc, absolument, comme tu rapportes, là, c'est confondant des fois. Heureusement, on a encore des podcasts ou des nutritionnistes qui prennent le temps justement d'informer la population, mais vraiment important pour aussi comprendre à quel moment j'ai tel besoin nutritionnel, qu'est-ce qui peut
Tout à
me
fait.
faire tel ou tel symptôme, aussi avec l'hydratation, même chose, là, savoir comment se sauver de la déshydratation, mais aussi de l'inverse, de l'hyponatrémie.
Tout à fait. Puis, tu disais tantôt que tu as fait différents tests. Est-ce que tu as fait des erreurs en faisant tes tests, puis des choses que tu t'es dit, ah, ça, clairement, ça ne fonctionne pas?
Oui, je crois que ben, il y a certains aliments là, que finalement ça fonctionne pas quand je fais de l'effort, que ça fonctionne en dehors, mais que genre mon corps refuse. Ben, j'ai la chance de pas avoir beaucoup de malaise ou nausées, contrairement à certains coureurs, mais c'est que je sens que j'ai aucun intérêt dans ces aliments-là. Tout ce qui est difficile à mâcher, ça c'est plus difficile, très acide, plus difficile. Des fois, ce qui est liquide m'aide beaucoup là, dans les fins de journée. La nutrition liquide qui contient protéines, glucides, électroniques, c'était aidant. Puis je crois aussi de prendre les occasions, on parlait du réconfort, mais c'est vraiment significatif quand je prends l'occasion, s'il y a un moment que je peux justement me ravitailler en quelque chose de plus agréable, ça aide vraiment le reste à passer après tout ça. Oui, je crois que mettons dans mes erreurs que j'ai faites plus significatives, la dernière fois que j'ai traversé le SIA, c'était un peu plus rapide justement, puis à la fin, c'était un peu plus difficile la nutrition. Je me forçais quand même à me nourrir, mais je crois que j'ai peut-être eu quelques jours de déficit, puis c'est comme il y a eu un retour du balancier quand j'ai cessé mon aventure une fois que j'étais au repos, que c'était terminé. la nutrition est devenue hyper difficile, comme si durant mon corps avait été capable de sortir
Oui.
les dernières énergies, mais qu'après, mon estomac était hyper irrité, j'avais de la nausée constante pendant, et ça, plusieurs semaines, là, que j'avais beaucoup de symptômes digestifs. Ça, j'ai pas encore trouvé l'explication exacte, scientifique, là. Je me questionne un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vraiment le contre-coup, là, mes derniers jours avec une nutrition un peu moins on point.
Ouais, puis tu sais là tu le nommes sur une longue aventure, mais moi je le vois en consultation avec des gens qui vont même tu sais courir des plus courtes distances, puis que la stratégie nutritionnelle est pas optimale. C'est quelque chose tu sais qu'on peut voir là. Des fois on va avoir des symptômes pendant, tu sais c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Il y a beaucoup de coureurs qui vont expérimenter des symptômes digestifs pendant, mais des fois c'est vraiment après, tu sais, que ce soit le jour même ou même les jours qui vont suivre. Mais oui, c'est un phénomène qu'on voit puis qui peut arriver là.
Ouais. Puis c'est intéressant, je réfléchis encore à comment minimiser cet impact-là parce que
Ouais.
souvent, bon, je suis un peu dans une lancée où est-ce que je vise les temps records. Je crois pas que toute la vie je vais, ou pour toutes les distances, je vais viser ça, mais quand je pense à mes prochains projets, je sais que je vais vouloir le faire assez rapidement, donc beaucoup de volume par jour. Puis ça, c'est un peu comme si j'ai une petite dette sur mon corps quand je fais ça. Quand tu pousses un peu plus loin, c'est pas seulement un genre d'équilibre parfait où est-ce que les intrants, les extrants sont en équilibre, le temps de réparation, le temps de compétition est équivalent. Donc, j'essaie de réfléchir justement à l'avenir, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser cet aspect-là pour éviter justement que je sois hypothéquée après mes aventures parce que c'est super de pouvoir soit performer ou vivre quelque chose dans ces moments-là, mais je veux pas non plus que ça se répercute trop dans le mois suivant. Donc, je réfléchis beaucoup à ces stratégies-là. Je crois que je vais devoir refaire des tests un peu, voir comment ça peut se comporter pour l'avenir aussi.
Oui, définitivement. Tu sais, tu sembles dire que quand c'est arrivé à ta deuxième tentative du Sentier international des Appalaches, c'était plus, je sais pas c'était combien de jours à la fin, là, quand ça allait moins bien au niveau nutrition. Mais tu sais, définitivement, je pense que c'est vraiment à partir de cette période-là, là, qu'il faut travailler la stratégie nutrition parce que je pense que, ben, en fait, même pendant un ultra qui va se dérouler sur, mettons combien, un chiffron, une journée. Au niveau stratégie nutrition, il va avoir des up and down, c'est tout à fait normal. Exactement. Fait que, tu sais, dans une aventure qui est longue comme ça, il va en avoir encore plus, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment d'établir un peu la stratégie pour ces downs-là, pour éviter qu'il y ait un trop grand déficit. T'sais, tu le disais, des fois en fin de journée, ça va être plus les liquides qui vont fonctionner. Tu sais, je pense que tu te connais déjà très bien là, par rapport à ça, mais c'est une stratégie que je vais utiliser avec mes clients aussi, là, de dire, OK, ben si à la fin de ton ultra, tu le sais que tu deviens saturé, peu importe que tu aies une belle variété avant, qu'on ait établi une belle stratégie avant, ben pour prévoir quelque chose de liquide à ce moment-là, fait que, tu sais, une poudre que tu vas apporter sur toi qu'on peut mélanger avec de l'eau dans les ravitaillements pour terminer au moins avec quelque chose qui est complet, tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment, il y a beaucoup d'éléments à considérer au niveau nutrition pour ce genre d'aventure-là, là.
Je trouve que parfois, ce qui est challengeant aussi, c'est au niveau même mécanique, là, au niveau digestif. J'imagine que le fait que l'alimentation, des fois, peut être plus exigeante mécaniquement, quelque chose de plus solide versus quelque chose de plus liquide ou une purée, ça doit avoir un effet aussi sur le système digestif quand c'est aussi répété que ça.
Oui, tout à fait. Ben, en fait, premièrement, au niveau de la vidange gastrique, c'est sûr qu'avec un liquide, la vidange gastrique se fait plus rapidement. La vidange gastrique étant le passage du bolus alimentaire de l'estomac vers l'intestin. Fait que, tu sais, il y a déjà un travail de déjà fait au niveau du principe de la digestion, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, une purée ou un liquide va avoir une meilleure vidange gastrique qu'un solide, là. Tu nommais, mais l'alimentation, l'acte de manger, c'est très complexe, puis ça part à partir du moment où on se met quelque chose dans la bouche. Fait que, tu sais, même la mastication, c'est sûr que dans une aventure comme ça, il y a la fréquence des apports. Fait que, on se retrouve à manger quand même souvent. C'est la fatigue au niveau de la mâchoire, tu sais, ça peut avoir un impact. Puis c'est sûr que si la mastication n'est pas optimale, ben au niveau du principe de digestion aussi, parce que la mastication a un rôle à jouer au niveau de la digestion. Fait que c'est vraiment tout ça qu'il faut considérer, là.
Intéressant.
Oui. On a parlé beaucoup de tes deux FKT que tu as fait sur le Sentier international des Appalaches, mais parlons de soit d'autres courses que tu as fait ou d'autres aventures. Est-ce que tu as rencontré d'autres enjeux nutritionnels ou des défis en nutrition?
Oui, certainement. Là, l'an passé, c'est un peu plus dans les plus longues. Mais je le répète, là, je suis quand même vraiment chanceuse parce que je suis pas extrêmement fragile. Il y a des gens que ça va être plus un enjeu que moi. Je crois que j'ai eu beaucoup de réflexions au début de ma saison passée avec la caféine. Parce que, tu sais, quand je dépassais justement les 100 kilos, je sentais justement l'espèce d'effet de mon cœur bat à X fréquence depuis 10 heures, 15 heures. Puis je me questionnais beaucoup, là, c'est quoi la nuisance de la caféine, le bienfait, c'est où la limite de la caféine? On dirait que j'ai expérimenté que moi, il y a un point où est-ce que ça m'allait plus. Donc, j'ai poussé là-dedans, mais même les électrolytes avec la caféine ou les barres avec la caféine, il y a une certaine durée d'effort à partir de laquelle on dirait que je dois la réduire ou la retirer, en fait, pour être certaine de ne pas avoir de genre de malaise au niveau plus du cœur ou de ma sensation, tu sais, même émotionnelle par rapport au cœur, parce que ça peut donner palpitations ou sensations de palpitations. Donc ça serait un de mes premiers apprentissages que j'ai fait dans mes plus longues.
Ah, puis au niveau de la caféine, tu sais, de base, en dehors de l'effort physique, la tolérance à la caféine est très individuelle. Tu sais, il y a des gens qui vont prendre une toute petite quantité de caféine puis qui vont déjà avoir justement sensation de palpitations, tremblements, tu sais, vraiment les effets néfastes de la caféine qu'on veut pas avoir. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être super tolérants à la caféine, mais c'est comme ça aussi à l'effort physique. Puis il y a quand même, tu sais, je pense que c'est important que ce soit, pour ces raisons-là, très individualisé là, comme stratégie. Il y a des quantités à respecter. La caféine, c'est un supplément pour lequel on a vraiment des belles données scientifiques là, pour l'optimisation des performances, diminution de la sensation de fatigue, augmentation de la concentration. Bref, il y a quand même des belles données, mais c'est ça, c'est important d'avoir une stratégie qui est individuelle, puis de bien connaître les dosages aussi là, pour avoir une stratégie qui fait du sens pour nous, là.
Ouais, puis je crois que c'est justement en expérimentant, moi je trouvais qu'à un certain moment c'était moins éduqué. Sinon, j'avais fait aussi un backer, puis j'avais trouvé que la nutrition était plus challengeante que dans
Ah
un événement où
ouais.
est-ce que, ouais, je trouvais ça pire d'avoir comme l'occasion de manger, mais là gérer la quantité sur un certain temps avant de refaire un exercice. J'avais trouvé ça un peu plus difficile que par exemple, mettons Arikana 125 que j'ai fait, où est-ce que mon apport, ma stratégie était assez similaire, c'était moins nouveau aussi là, de faire un apport assez constant avec qui rentre au moment où ça rentre là. Donc ouais, le backyard, j'avais trouvé ça plus difficile, l'aspect de d'avoir comme la possibilité de manger un repas ou pas, ou de boire juste des électrolytes ou pas. Puis à la fin, on dirait que c'est ce qui m'avait limité dans ma sensation musculaire. Là, il y avait clairement eu un déficit nutritionnel à la fin, puis que j'étais plus capable de combler, puis qui me faisait beaucoup de douleur là. Comme si mes muscles n'arrivaient pas à retrouver leur énergie ou leur équilibre électrolyte et compagnie.
Puis d'ailleurs, tu sais, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un backyard, expliquons c'est quoi. Dans le fond, c'est une boucle de 6 points, sais-tu, 7
6,7.
kilos. 6 points, OK, 6,7 km.
Exact.
Fait que chaque heure, il y a un départ, dans le fond, d'une boucle de 6,7 km. Donc, à chaque heure, on revient au point de départ. Donc, c'est pour ça que Charlotte t'explique que c'est différent à gérer parce qu'on revient toujours au point de départ. Fait que c'est selon le temps de pause qu'on a avant le prochain départ aussi, comment qu'on gère la nutrition avec tout ça. Puis, il n'y a pas de temps limite à ces
Exact.
boucles de 6. C'est l'élément important. Il n'y a pas de temps limite. Fait que l'objectif, dans le fond, c'est de faire le plus de boucles de 6,7 km possible avec un maximum d'une heure entre chaque boucle. Fait que c'est oui, je trouve ça vraiment important ce que tu dis parce que j'ai des clients qui m'arrivent puis qui ont justement de l'expérience, mettons, en ultra, puis qui se lancent dans un premier backyard, puis qui sont comme, oh mon Dieu, c'est complètement différent à gérer. Puis c'est parce qu'en fait,
Tout à
il y
fait.
a différentes façons d'attaquer une course de ce type-là. Tu sais, il y a des gens qui vont vraiment y aller avec ben, je consomme absolument rien pendant la boucle, puis j'optimise la nutrition pendant, tu sais, mon temps de pause selon le temps que j'ai. Il y a des gens qui vont se dire, bon, ben, au moins, tu sais, j'essaie de m'hydrater avec un liquide qui va me fournir quand même des nutriments pendant la boucle, puis je vais compléter avec un petit peu plus de solide. Je vais intégrer, par exemple, mes protéines à ce moment-là dans le temps de pause, ou je fais comme si c'était un ultra, puis je traîne mes trucs, c'est juste que je me ravitaille à chaque heure. Fait que, tu sais, il y a comme pas de façon parfaite de le faire, là, j'ai envie de dire, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre, mais c'est vrai que quand on passe de courir comme en continu à un backyard, ça peut amener certains défis là.
Juste à la lumière de ce que tu me dis, je crois que j'aurais dû juste avoir une technique un peu plus ultra que backyard, me dire j'ai un minimum de ravitaillement sur moi-même, puis je
Ouais.
me nourris, je ravitaille mon ravitaillement au lieu de d'avoir un
Ouais.
genre de confusion de comment je change ma stratégie. Peut-être j'aurais dû juste utiliser une stratégie plus similaire à ce que je connais déjà au fond.
Ben, honnêtement, c'est souvent ça fonctionne super bien quand on se connaît bien, puis qu'on a déjà une stratégie gagnante en ultra. Ben, définitivement, d'essayer de répéter un peu la même chose dans ce type d'événement-là, là, c'est souvent aidant. C'est l'enjeu qu'on a si on décide de ne rien consommer pendant la période qu'on court, puis combler comme nos besoins dans notre temps de pause. Là. Je mets vraiment temps de pause entre guillemets parce que tu sais, ça peut être court pour certaines personnes, mais l'enjeu, c'est que t'sais, des fois, ça va pas nécessairement rentrer, t'sais, on va peut-être pas avoir envie de manger non plus. Puis, t'sais, une boucle, ça va, deux boucles, OK, mais à un moment donné, c'est parce que ça nous rattrape, là. Versus de dire, ben, j'intègre des trucs pendant que je cours, puis je complète après au pire, mais au moins, on est sûr d'avoir quelque chose, là.
Ouais, très bon point.
D'autres défis que tu as rencontrés?
Oui, je suis en train de réfléchir à ça. J'ai eu un peu de défi avec mon végétarisme quand j'étais à Terre-Neuve, justement, quand j'avais juste accès à des dettes. Ça fait quand même plusieurs années que je suis végé, donc si ça va, j'ai un peu mes sources de protéines, mais là, j'avoue que y en avait peu, mettons, dans ce qui était disponible. Il y avait, considérant que je ne pouvais rien cuisiner, rien cuire, là,
Ouais.
je devais me tourner, ben, il y avait un peu l'option poisson, donc j'allais, parfois je fais de l'exception pour le poisson en cas de besoin. Mais sinon, ouais, j'avoue que ça a été un peu une réflexion de m'assurer. C'était moins grave vu que c'était pas si prolongé que ça. C'était pas un 2 semaines, 3 semaines là, de
Ouais.
parcours. Mais je me disais que d'avoir une bonne stratégie aussi pour savoir les bonnes sources d'énergie quand c'est moins disponible, la variété, c'est important aussi. Ça demande un peu plus de connaissances.
Oui, tout à fait. Puis est-ce que tu avais réfléchi à ça à l'avance? Est-ce que c'était déjà des réflexions que tu avais eues?
Peu quand même. C'est sûr que sur le site, je comprends la réalité d'un dépanneur ou d'un magasin général en région. Donc, je comprenais un peu ça. Mais je crois que je croyais de un qu'il y en aurait peut-être un petit peu plus fréquemment ou dans les heures où je pensais qu'il serait un peu plus ouvert, qui a été moins le cas. Donc, il y a des moments où je passais dans les villages, puis là, tout était fermé. Donc, ça m'a enlevé une opportunité. Puis je pense que c'est le côté protéines que je peux transporter avec moi, c'était un peu un défi aussi. Donc, ce que j'avais trouvé à ces moments-là, c'est tout ce qui est comme sandwich choses ou mettons des c'est comme des fruits de mer fumés ou des trucs comme ça dans des boîtes de conserve, là. Il y a ça beaucoup dans les maritimes, pour les gens qui connaissent moins les
Ouais.
maritimes, comme les moules fumées, là, c'est un truc qu'on trouve toujours sur les tablettes, là. Donc, j'étais allée avec ça. J'avais essayé de trouver, tu sais, des fois il y a des laits protéinés ou des trucs comme ça. Je me débrouillais un peu avec ça. Ou des laits de soya, tu sais, petit format. Donc, je pouvais les emmener dans mon sac pour la journée, pas seulement en ouvrir un puis qu'ils puissent périmer. Donc, c'est
Ouais,
un peu
c'est ça
ça.
l'avantage
Fromage un peu.
de ces boissons-là, c'est que ça se conserve quand même. Mais parce
Exact,
qu'il y
c'est
a
ça.
l'enjeu de conservation aussi, là,
Ouais.
on n'a pas le choix d'aborder. On peut
Tout
pas
à fait.
apporter
Oui,
n'importe quoi au niveau qualité, salubrité des aliments. Ce
exact.
serait quand même pas le fun de développer une toxi-infection alimentaire non plus,
Ce serait tannant même.
là.
Donc, c'est ça, c'est y aller avec des fromages ultra transformés,
Ouais.
malheureusement, mais ça, c'est un
Ouais.
peu une source de protéines, de gras, puis ils ont tellement d'agents de conservation que souvent, ça se périme pas dans le prochain 24 heures, disons, là, ça
Ouais.
peut. Donc, ouais, c'est un peu ça mon apprentissage à ce moment-là.
Ah, définitivement. Puis en fait, j'ai envie de dire que même dans un contexte d'ultra, les sources de protéines de base, c'est quand même
Ouais,
un enjeu.
c'est vrai.
C'est
tout à
quand même
fait.
un enjeu. C'est, tu sais, il y a beaucoup de monde. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on doit pas juste intégrer des glucides dans un contexte ultra, mais qu'il y a d'autres nutriments super, super importants. Puis encore là, tu sais, on se dit, bon, mais c'est quoi les sources de protéines que je peux inclure? Fait que c'est quand même un enjeu important, là.
Ouais, puis c'est vrai que c'est pas tous les ultras non plus qui ont, mettons, une équipe de nutrition qui vont y penser ou qui vont offrir une option genre vegan aussi. Ça, c'est important. Des fois, être végé ou vegan, c'est pas juste manger des légumes, là. C'est aussi, on a quand même besoin de sources de protéines. Donc, ça aussi, c'est une bonne réflexion, à avoir, soit le prévoir, j'imagine, là, dans sa nutrition personnelle ou pour les organisations, là, d'avoir, une conscience de cette réalité-là aussi.
Oui, exactement. Tu sais, maintenant, il existe plein de suppléments dans lesquels on peut aller chercher ces nutriments-là. Sinon, c'est de le planifier en fonction des ravitaillements, s'il y a des options de disponibles. Si jamais on a un job bag aussi, on peut utiliser un job bag pour intégrer. Je dis tout le temps d'intégrer des aliments réconfortants parce que c'est motivant, mais aussi les sources de protéines, ça peut être une bonne idée, là.
Ouais, bon point.
Donc, Charlotte, tantôt, tu disais que, je pense qu'en 2023, donc l'année qui vient de passer, tu t'es lancée sur le 100 km du Gaspésia 100 et le 125 de l'UTHC, mais qu'est-ce qui t'attend en 2024? Est-ce que tu as déjà des trucs de planifié?
Oui, ben, ce que j'ai planifié en 2024, c'est plus des traversées. Puis, là, j'ai pas encore, planifier tout ce qui est course officielle. Je crois que j'ai avoir des courses comme plus entraînement. Mon premier projet, c'est quelque chose auquel je pense depuis quelques temps, c'est la Long Trail au Vermont. Donc, c'est la plus vieille randonnée pédestre, le plus vieux sentier en Amérique du Nord, en fait, qui a été fait en premier là, il y a plus de 100 ans. C'est sur 440 km, si je me souviens bien. Puis, je veux la faire dans le fond environ une semaine. Donc, ça va être la traversée, c'est dans les Green Mountains, donc vraiment en montagne, en sentier. Ça traverse du sud au nord, le Vermont. Donc, ça va être mon premier projet un peu plus au printemps. Donc, je vais me faire un petit build-up de volume pour être capable de faire ça au printemps avant que ce soit la saison des mouches noires et des touristes sur les montagnes au Vermont. Donc, ça va être mon premier projet. Puis avant ça, je vais sûrement mettre quelques courses là durant l'année. Puis j'aimerais ça en septembre avoir un autre traversée. Puis c'est un autre projet que je pense depuis quelques années. Faut juste que je valide un peu pour les dates à cause du climat qui va être un peu plus alpin, mais j'ai un grand rêve qui est de traverser les Pyrénées sur le GR10. Donc ça serait mes deux prochains projets. Là, on parle plus d'un 900 km qu'on parle du GR10. Donc ça va être de retourner vraiment dans de la plus longue traversée. Je voulais refaire un presque 1 000 km cette année. J'ai vraiment aimé mes projets de l'an passé, ça m'a permis de me découvrir, mais là, je voulais refaire un projet un peu plus long là, pour bien décrocher dans ces jours-là.
Fait que le premier projet va venir quand même assez rapidement, là. Tu sais, au moment où on enregistre, on est au mois de février. Donc, ça va venir quand même assez vite, le printemps, là.
Oui, tout à fait. L'avantage de ce projet-là, c'est que c'est des montres. Un terrain, c'est aussi les Appalaches, c'est quelque chose que je peux connaître plus. Puis en étant à Montréal, je peux facilement aller m'entraîner comme dans les Adirondacks, un terrain un peu plus similaire. Le projet suivant, là, pour les Pyrénées, ça va être vraiment plus un défi au niveau, même si je pense encore à la nutrition, parce que je sais, là, la réalité est encore plus différente. Donc, ça va impliquer beaucoup de recherches pour voir de quelle façon je peux justement m'alimenter sur plusieurs jours, là. Le GR10 passe souvent dans des villages, mais là, c'est voir les heures d'ouverture, c'est quoi les aliments disponibles, la culture, justement, des marchés en Europe et d'autant plus en montagne est extrêmement différente d'en Amérique, là.
Tout
Donc,
à
ça
fait.
aussi, ça va être un défi. Les randonneurs qui parlent des Pyrénées parlent beaucoup du fait que c'est tellement omniprésent dans notre culture d'avoir des bars, des produits transformés, des shakes de protéines, des trucs comme ça, versus dans les mini-villages en Europe, dans les montagnes, on risque de vraiment pas avoir ce genre d'accessibilité-là à des aliments un peu fourre-tout, là. Donc, ouais, ça va être une grosse question à ce niveau-là aussi.
Puis je suis curieuse, y a-t-il un enjeu d'altitude?
Les plus hautes montagnes montent quand même dans les 3 000, mais sont pas si nombreuses. Donc, je crois que ça nécessitera pas forcément une acclimatation longtemps à l'avance au niveau de l'altitude, parce que je crois que c'est des pointes plutôt courtes, là. Donc, ça se passe dans une journée où est-ce qu'on atteint les sommets. C'est pas comme être sur un plateau pendant des jours et des
Pendant
jours.
des jours, oui, c'est ça.
Exactement.
Parce que ça aussi, c'est un enjeu important au niveau nutrition. Tu sais, l'altitude va avoir un impact sur les besoins nutritionnels, là. Fait que,
Oui,
ouais.
tout à
OK.
fait. latitude, froid. Une de mes considérations, c'est aussi l'accessibilité de l'eau. Si c'est pas un problème trop sur nos sentiers au
Oui.
Québec, puis dans les Appalaches non plus, parce que les ruisseaux, les lacs, c'est vraiment fréquent. Quand tu es dans un territoire un peu plus alpin, c'est pas la même accessibilité non plus. Donc, ça, c'est l'autre question à explorer. Donc, ça va être beaucoup de planification. Je crois que pour faire ce genre de projet-là, il va falloir vraiment bien m'équiper, puis voir justement la limite là, au niveau de la saison, où est-ce que le froid entrera pas plus en jeu à cause de l'altitude, où est-ce que les sources d'eau vont être encore disponibles.
Fait que les deux gros projets de l'année, puis entre-temps, on va peut-être te revoir sur des parcours de course au cours de
J'espère.
l'été.
Tout à fait.
Si les gens veulent suivre tes aventures, à quel endroit on peut te retrouver?
Je mets beaucoup mon matériel sur Instagram. Donc, c'est charlotte.levpaq pour le Vasseur Parkin. C'est mon Instagram. Donc, tu sais, souvent, je fais des stories où je mets des posts quand je fais des voyages avec comme mon résumé un peu journalier. Sinon, sur mon Strava, là, c'est mon même nom, mon vrai nom sur Strava. Dans les moments où on peut justement me suivre, là, je l'upload quand c'est possible à ces
Parfait.
moments-là.
Je mettrai les liens pour que les gens puissent suivre tes aventures 2024, tes belles aventures 2024.
Merci beaucoup.
Merci. Merci Charlotte pour ton partage. Super contente. Je savais que ça allait être super intéressant de te parler, mais je pense qu'on a couvert des sujets super importants. Merci.
Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Puis je veux te remercier pour la pertinence de ton podcast. C'est tellement important d'avoir des sources fiables, spécifiques à nos sports. Ça me fait beaucoup du bien d'entendre tout ce que tu as à nous apprendre, là. Je trouve que ça change un peu le paradigme de notre perception de l'alimentation, de l'importance de manger, de comment bien le faire. Donc, merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. C'est très pertinent.
Ah, merci, t'es vraiment fine. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. Un énorme merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que les épisodes t'aident à mieux assembler les morceaux de casse-tête sur la nutrition sportive. Je t'invite à me laisser un commentaire sur le podcast pour m'aider à le faire connaître. Il suffit de te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et de descendre jusqu'en bas dans la section « Commentaires et avis ». Tu cliques sur 5 étoiles et tu me laisses un commentaire. C'est aussi simple que ça et ça m'aide beaucoup. Merci encore d'être là et on se dit à la prochaine!